J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à déléguer. Je me sentais pas les épaules, je me sentais pas assez en confiance. Je me disais que je méritais pas forcément ça. Je me disais qu'il fallait me faire très mal pour être un bon chef d'entreprise, qu'il fallait être partout. Bah en fait, non, tout le monde mérite du confort, tout le monde mérite de l'organisation. Et j'ai mis trop de temps à déléguer. C'est un truc qu'on entend beaucoup, mais en fait, c'est vrai que c'est très, très dur de déléguer. Ce qui est dur, c'est quand c'est ta source de revenus. C'est-à-dire, c'est l'argent avec lequel tu vas payer ton loyer, partir en vacances. Mais quand tu délègues à la première personne à qui tu vas déléguer, bah, tu lui mets un peu ta vie entre les mains. Donc, je pense que c'est ça l'erreur que j'ai fait. C'est un peu ça le frein mental qu'on a. Une fois qu'on a fait le premier, après c'est bon, on a compris, on se dit waouh, c'est magique en fait. Je suis pas dans le magasin, il y a du chiffre d'affaires qui rentre, mais quelle bénédiction, c'est incroyable.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Laurent.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va super bien. Un petit peu froid à Paris, mais tout va bien.
Eh ben écoute, parfait. Moi, je t'appelle du soleil ici et je vais essayer d'en donner à toutes celles et ceux qui nous écoutent et de la bonne énergie. Ça me fait super plaisir de t'avoir ici en ligne, sachant que tu as un parcours assez dingue. On va en parler dans juste un instant et qu'en plus, tu fais partie de nos auditeurs fidèles. Donc, ça fait super plaisir de savoir que des personnes d'une telle qualité nous écoutent et je sais à quel point les gens qui nous écoutent ont envie d'avancer et de faire la différence. Je te présente très rapidement, Laurent. Tu es un ancien veilleur de nuit dans l'hôtellerie et aujourd'hui les choses ont bien changé car tu es le fondateur et CEO de Gold Union, une entreprise dans le domaine de l'achat et de la revente de métaux précieux auprès des particuliers. Tu es l'un des leaders de ce marché. Aujourd'hui, Gold Union, vous avez 60 agences physiques avec 20 notamment en préparation, un objectif de plus de 100 agences d'ici 2025, un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros l'année dernière, plus de 70 collaborateurs, un développement également aux États-Unis qui est prévu pour cette année. Outre Gold Union, tu investis activement également dans l'immobilier et dans des startups. Tu es aussi donc le président et fondateur de Cullinan, un groupe qui s'étend au-delà de l'or, incluant des investissements divers dans les transports, l'immobilier, la restauration et l'hôtellerie avec un projet actuellement en cours. Et surtout, on a un point commun, c'est que tu as fait tout ça en partant de zéro, en total autodidacte. Donc, ça me fait super plaisir de t'avoir ici, présent aujourd'hui, et j'espère que tu es chaud pour vivre ensemble cet épisode. J'ai plein de questions à te poser.
Bah merci, moi aussi je suis ravi et comme tu l'as dit, j'écoute quasiment tous les épisodes du Déclic, donc je suis vraiment très content d'être là et merci pour la présentation.
Avec grand plaisir. Une fois n'est pas coutume, je vais inviter toutes celles et ceux qui nous écoutent et grâce à qui nous en sommes là aujourd'hui de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis sur la plateforme de podcast préférée. Je vais d'ailleurs en lire un. Désormais, on va mettre une nouvelle routine pour les épisodes audio. Je vais lire un avis. Aujourd'hui, je vais lire l'avis d'Alexandre qui nous dit « Très utile à écouter, podcast humain qui va puiser au fond du vécu des entrepreneurs pour en faire ressortir l'essence. Merci Alec de mettre en lumière des parcours de vie pour motiver les nouvelles générations. » Mais écoute, merci Alexandre, merci à tous et merci à celles et ceux qui prendront 2 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et un avis derrière. On va essayer aujourd'hui, du coup, avec ton parcours, Laurent, eh bien, de mettre en lumière tout ça et de donner de la motivation aux nouvelles générations, mais aussi aux autres, donc à toutes les générations. Laurent, pour donner du contexte, tu commences comme veilleur de nuit avant de te lancer dans le domaine du commerce de l'or. Quel a été le moment décisif où tu as décidé de changer de cap et devenir entrepreneur et pourquoi également tu choisis ce domaine en particulier ?
Alors en fait, c'est vrai que comme tu l'as rappelé, je n'ai pas fait d'études. Donc évidemment, oui, c'est bien de passer ce message aussi que même sans études, on peut s'en sortir. En fait, je pense que le déclic, ça a été, comme j'étais veilleur de nuit, je travaillais de 19h à 7h du matin. Pour donner un petit peu le contexte, c'était juste à côté de l'Opéra, donc c'était un tout petit hôtel qui s'appelait l'Hôtel Elder qui a été revendu. Et c'est vrai que la nuit, ça amène à réfléchir, surtout que c'était un travail qui intellectuellement n'était pas très intéressant. Je faisais que donner les clés ou changer les coussins des clients, donc c'était pas quelque chose de passionnant. Et je pense qu'une nuit, j'ai dû me dire vraiment, je peux pas rester là, je peux pas faire ma vie ici. Je voyais qu'il y avait un veilleur de nuit dans l'hôtel à côté qui était là depuis 30 ans. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas rester là. D'ailleurs, je le disais toujours à mes collègues. Donc ça, c'est le premier déclic, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est bien quand on est jeune de commencer par un travail qui est difficile. J'en ai fait d'autres qui étaient encore plus difficiles. J'ai travaillé notamment dans des vestiaires de boîtes de nuit, etc. J'ai fait des choses un peu, un petit peu de tout. Et donc, j'ai eu ce déclic, en tout cas, de me dire que je ne voulais pas rester à cette place-là. Et le deuxième déclic, quand on avancera un petit peu dans mon parcours, c'est le moment où j'ai, pour la première fois, fait mon premier achat et où j'ai vu que je pouvais générer moi-même mon propre chiffre d'affaires et gagner de l'argent seul, sans attendre la fin du mois et avoir un salaire. Donc, on va dire que c'est ça un petit peu les deux moments clés qui m'ont amené ici aujourd'hui.
Ok, très clair. Et est-ce que dans ton entourage, tu avais des gens qui étaient entrepreneurs ou la famille ou autre? Parce que moi, j'ai vécu plus ou moins la même chose et je me reconnais justement dans ton parcours. Alors moi, c'était plus à l'usine et je disais aussi à mes collègues, un jour, je sortirai de ce contexte pour pouvoir m'émanciper du système et acquérir une certaine liberté, etc. Et puis, à d'autres moments, j'étais aussi veilleur de nuit dans la sécurité, dans une autre usine du coup, et je disais aussi la même chose. Et autour de moi, tu vois, j'avais pas forcément cet entourage entrepreneurial et j'ai pris conscience au fur et à mesure du temps, aussi en me rendant compte que tu peux gagner de l'argent différemment, qu'il était possible de se lancer. Dans ton cas, quel a été l'élément déclencheur de cette prise de conscience pour te dire, ok, il est possible de faire des choses seul, et en plus, il est possible grâce à l'entrepreneuriat d'acquérir cette liberté?
En fait, moi, pour revenir à ta question sur la famille, moi, ma maman, elle travaillait dans le recouvrement, donc rien à voir. Mais par contre, oui, mon père est, on va dire, commerçant, on va dire un petit peu de l'ancienne génération. Donc, si tu veux, c'est une génération qui, on va dire, sautait un petit peu de projet en projet. Donc, il a eu 1000 vies, il a fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il a eu des magasins de chaussures quand j'étais tout petit, puis il a tout perdu. D'ailleurs, je pense que oui, ça m'a pas mal marqué, ça aussi, le fait qu'il ait tout perdu. Et c'est pour ça aussi que je m'efforce tous les jours de monter plus haut et de pas redescendre. Mais j'ai mon père quand même qui, oui, avait cette fibre d'entrepreneur. Et je pense que voilà, c'est pas que dans les gènes forcément, mais évidemment pour moi ça me semblait possible vu que je voyais évidemment mon père se lancer et gagner son propre argent. Donc ça m'a aidé. Et pour aussi revenir à ce que tu dis, le fait d'en parler à ses collègues, je pense que c'est toujours bien de dire les choses aux gens et ça nous met face à nos propres responsabilités. Et au bout d'un moment, si on veut pas passer pour un idiot, on fait ce qu'on a dit. Donc c'est toujours bien de parler un peu trop parfois.
Complètement, complètement, je te rejoins. Et du coup, tu me parlais de ta première transaction où tu t'es rendu compte justement qu'il était possible de faire une plus-value et de gagner de l'argent autrement. Qu'est-ce qui t'a mené alors et qu'est-ce qui t'a mené à cette première transaction?
Alors en fait, c'était il y a un peu plus de 10 ans. J'ai donc à l'époque, je suis veilleur de nuit. J'ai essayé pas mal de choses. J'ai essayé aussi d'organiser des soirs à Paris. Donc j'avais déjà un petit peu tester l'entrepreneuriat à travers ça, mais bon, c'était très compliqué. J'étais aussi un petit peu DJ, enfin, je faisais pas mal de choses. Un soir, j'ai vu sur l'émission Capital une société qui rachetait de l'or aux particuliers dans les bureaux de tabac. Je cherchais à ce moment-là quelque chose à faire. J'avais pas vraiment d'ambition immense. À cette époque-là, je gagnais 1000 euros et sans critiquer personne, voilà, plutôt que, on va dire, de me plaindre et de demander une augmentation à mon patron, je me suis dit que je voulais chercher un nouveau métier. Donc j'ai vu ce reportage sur Capital, donc sur M6, et je me suis dit, tiens, il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, ça ne m'a pas l'air trop compliqué. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans ce métier. Donc j'avais un ami bijoutier qui m'a expliqué, son papa était bijoutier, il m'a expliqué rapidement comment tester l'or. Et c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai commencé à démarcher en banlieue parisienne des bureaux de tabac, des maisons de la presse. Peut-être que les gens vont pas trop comprendre en fait. Je vais expliquer clairement. En fait, au début, quand on n'a pas de magasin, qu'on veut faire une activité, on est obligé de louer temporairement un emplacement. Comme vous voyez, des fois dans les supermarchés, il y a des gens qui vendent des matelas ou qui vendent différentes choses, qui louent un emplacement. C'est un corner, comme dans les centres commerciaux, il y a des corners. Et donc moi, c'est ce que je faisais dans les bureaux de tabac. Donc je venais, je disais, voilà, je ferai une opération de rachat d'or dans un mois. Je vous paye 50 euros la journée et je serai là sur 2 jours. Voilà, bon, imagine, voilà, en fait, de base, évidemment, ça ne marche pas dès le premier coup. Il faut en faire 10, 15 avant qu'il y ait au moins un patron de bureau de tabac qui accepte. Et ensuite, une fois que j'avais mon premier emplacement, j'ai fait de la publicité. Je suis venu m'installer le jour à la date prévue. Et j'ai eu effectivement une première cliente qui est venue. Je lui ai acheté son or. À l'époque, on avait le droit de payer en espèces encore. Et le midi même, je suis parti à Paris pour le revendre et j'ai eu entre les mains tout de suite la marge que j'avais fait. Et c'est là où vraiment je me suis dit, tiens, ça y est, il y a quelque chose à faire. J'ai créé quelque chose et ensuite, c'est là que tout a démarré.
Ok. Et donc, à ce moment-là, tu fais ça en parallèle de ton job de veilleur de nuit?
Non, j'ai complètement arrêté. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon patron qui était très compréhensif et très gentil. Et je me suis lancé à 100% parce que je ne pouvais pas prospecter la journée et travailler la nuit. C'était trop compliqué. Okay. Surtout que travailler la nuit, bon, si tu l'as fait, tu sais ce que c'est. Et pas voir le soleil au bout d'un moment, c'est quand même très déprimant.
Ouais.
C'est assez particulier. Donc, on rentre le matin, on va dîner alors que les gens prennent leur petit déjeuner. C'est très spécial. En tout cas, ça ne me correspondait pas. Et donc, du coup, voilà comment ça s'est passé.
Ouais, je comprends. Mais l'élément sous-jacent à cette question, finalement, c'est aussi la prise de conscience du fait que tu arrêtes ton job pour pouvoir te lancer dans une activité entrepreneuriale sans forcément déjà avoir eu de gros résultats. Et donc, voilà, limite, tu brûles les bateaux pour pouvoir tenter ta chance vers l'entrepreneuriat et tu te dis, limite, ça passe ou ça casse.
C'est ça. Et après, pour, on va dire, bien expliquer le contexte, j'étais toujours chez ma maman. Donc, en fait, c'est vrai que je me suis lancé, mais j'avais pas non plus de charge de loyer. Et j'étais quand même resté plus de 2 ans veilleur de nuit. Donc, ça fait quand même une longue réflexion. Ouais. Mais oui, au bout d'un moment, de toute façon, je me suis dit, on va essayer et puis on verra. Si ça marche pas, on fera autre chose.
C'est très intéressant, justement, que tu détailles ton contexte à ce moment-là. Ça permet à ceux qui nous écoutent aussi d'en prendre conscience et de se poser les bonnes questions par rapport aux leurs. Donc, au début, tu commences par vendre de l'or, ce qu'on appelle en itinérance. Qu'est-ce qui t'a ensuite conduit à ouvrir ta première boutique? Comment est-ce que tu as fait ce switch?
En fait, le switch, il s'est fait au bout d'un an. Donc, je fais des emplacements, je les multiplie. Je travaillais 6 jours sur 7. Et juste pour revenir à ce que tu disais avant, souvent les gens ils disent je me lancerai plus tard, je vais avoir une expérience dans un travail en CDI, etc. Et si on veut se lancer, franchement, il n'y a pas meilleur contexte qu'à être chez ses parents, d'avoir son loyer payé, etc. On part quand même avec une tranquillité d'esprit. En plus, si on a le chômage, je veux dire, moi je conseillerais plutôt de se lancer tôt que trop tard. Voilà, ça c'était juste un petit point. Et ensuite, les emplacements en itinérant, au bout d'un moment, ça devient très, on va dire, chronophage, très fatigant. Et aussi, je commençais à avoir l'ambition de scaler, c'est-à-dire de développer très fortement mon activité. Et en fait, les emplacements, c'est compliqué parce qu'on n'est pas chez soi. Après, je faisais les Franprix, mais finalement, ils ont été revendus, donc je ne pouvais plus faire cette activité. Parfois, le patron, on ne sait pas pourquoi, il enlevait les affiches, il annulait au dernier moment l'emplacement. C'était quand même un petit peu mal vu puisque c'était une activité d'itinérant, donc je voulais vraiment entre guillemets rentrer dans les clous pour pouvoir développer l'activité, et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait prendre une boutique. Et donc j'étais dans un emplacement donc à Houille, et c'est à ce moment-là que j'ai vu une boutique à louer dans une rue très très marginale, hein, vraiment un très mauvais emplacement pour le coup. Mais pour démarrer avec les moyens que j'avais, j'avais économisé 10 000 euros. Donc c'est comme ça que j'ai lancé la première boutique. Début 2013, quelque chose comme ça.
Ouais. Et justement, on va revenir sur tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as une très, très belle croissance. Encore aujourd'hui, on va revenir après sur des chiffres, justement, pour parler croissance et déploiement. Là, je reviens sur le début. Mais on l'a évoqué, tu t'es lancé en total autodidacte. Quels ont été les différents problèmes, les plus grosses problématiques auxquelles tu as fait face, surtout en sachant que c'était ta première expérience entrepreneuriale, tu n'avais pas de formation spécifique, tu n'es pas issu d'une grande famille d'entrepreneurs ou un grand entourage d'entrepreneurs. Et pourtant, il faut le dire quand même, ce qui a été mis en place avec Gold Union aujourd'hui en seulement quelques années, c'est vraiment gros. 60 boutiques physiques, une ambition à plus de 100 boutiques en 2025, 70 collaborateurs. On parle de business physique. C'est complètement différent que des business dématérialisés. On en parlait tout à l'heure en off. Du coup, quelles ont été les plus grosses problématiques auxquelles tu as fait face au fur et à mesure de cette croissance ?
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Bah en fait, pour en revenir aux études, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'être structuré et organisé en ayant fait des études, on a un côté naïf quand même parce que c'est vrai qu'on se lance dans les choses sans voir la complexité avant. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un côté un peu... on va dire un peu inconscient qui aide parce que si j'avais su tout ce qui m'attendait malheureusement je pense pas que j'y serais allé parce que en fait au début on est complètement on est désorganisé, on n'a pas les codes, on sait pas ce que c'est qu'un business plan, on sait pas regarder des chiffres. Pendant de nombreuses années j'ai été complètement dans le brouillard au niveau du pilotage de ma boîte. J'ai commencé à vraiment me structurer qu'il y a environ 3-4 ans, ce que j'appelle vraiment structuré, donc ça a été très long. Je pense que si j'avais fait des études et que j'avais eu une structure avant, j'aurais pu sûrement mieux structurer la boîte dès le début. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas l'habitude. Et puis, faut se faire violence parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler beaucoup, entre guillemets. Moi, j'étais vraiment un très mauvais élève. Donc, c'est ça un petit peu les difficultés auxquelles j'ai fait face. C'est des problèmes de structure et d'organisation, tout simplement. Donc, pour se développer, après, c'est très compliqué. On ouvre une deuxième boutique, une troisième boutique, et puis on court comme un poulet sans tête, quoi. En gros, le matin, on est quelque part. Après, on passe à une boutique le soir. Il faut livrer quelque chose, on va le déposer soi-même. Enfin, si quelqu'un regardait mon organisation de l'extérieur au début, il m'aurait dit, mais tu cours dans tous les sens, tu vas t'épuiser, tu vas faire une dépression nerveuse, quoi.
Ouais.
Donc l'organisation, pour moi, c'est la clé de la sérénité. Mais ça, je l'ai compris malheureusement, entre guillemets malheureusement, un petit peu tard. Mais là, depuis 3-4 ans, on est très structuré. Et c'est comme ça qu'on a pu avancer aussi fortement ces 3-4 dernières années. Puisqu'en 2019, j'avais 4-5 boutiques en 2019. Donc là, en 3 ans, on a fait plus de fois 10 sur les boutiques.
Ouais.
Voilà, donc c'est là où est la différence. Bon, il y a aussi une maturité du projet et du business model, évidemment.
Complètement. Bah, justement, j'ai envie de creuser sur cette croissance et ce développement. Donc, comme tu le dis, en 2019, tu as 4-5 boutiques. Aujourd'hui, on est début 2024, au moment où on enregistre cet épisode, on est en mi-janvier 2024. Tu as plus de 60 boutiques, 20 en préparation et en prévision pour la suite. Donc une croissance juste énorme, c'est plus de x10 effectivement. Outre la partie structuration que tu évoques, si on rentre plus dans le détail, est-ce que vous avez développé un process particulier, duplicable pour chaque boutique ? Concrètement, quelles sont les stratégies qui t'ont aidé à réaliser une telle croissance dans cette typologie de business qui, je le rappelle, est beaucoup moins, malléable et agile,
scalable,
que des business physiques, ou scalable effectivement que des business en ligne parce que c'est un business physique.
Ouais. En fait, déjà, il y a deux types de personnes quand on monte sa société. Je vois moi-même dans mon métier, il y a des gens, ils sont indépendants, ils ont une boutique où ils achètent et ils vendent de l'or et c'est tout, ils n'en font pas plus. Moi, j'ai toujours regardé en me disant, mais pourquoi ils n'en ont pas 10, 100 comme moi ? Et en fait, j'ai compris la différence, c'est qu'il y a des gens dans la vie qui sont conservateurs. Et il y a des gens qui veulent aller de l'avant et qui n'ont pas peur de tout perdre parce qu'ils, entre guillemets, sinon ils vont s'ennuyer, ils vont mourir sur place et ils ont besoin d'avancer. Donc moi, je fais partie, on va dire, de la deuxième catégorie. Et surtout, il y a beaucoup de gens aussi qui ne se développent pas parce qu'ils se disent « je vais apprendre mon métier à quelqu'un, il va ouvrir une boutique comme moi, il va me faire concurrence. » Vraiment, des mensonges qu'on se crée à soi-même mais qui n'existent pas. Je veux dire, moi, on a eu du turnover dans les 100 personnes qui sont passées dans la boîte. S'il y en a un qui demain va ouvrir son business de rachat d'or, Très bien, tant mieux pour lui, c'est pas grave. Et jusqu'à présent, en plus, je vais te dire, il n'y en a aucun qui l'a fait. Parce qu'il ne faut pas croire, mais entreprendre, c'est pas l'envie de tout le monde, finalement, et tant mieux. Donc voilà, et sinon, pour parler des process qu'on a mis en place pour pouvoir se développer, comme toutes les grandes enseignes, on a mis en place ce qu'on appelle une espèce de bible où il y a écrit tous les process que doivent avoir les experts, parce que nous, nos employés en agence, on les appelle des experts, on en a un par boutique, ce qui suffit. Et donc, en fait, ils ont une espèce de livre, une bible que j'ai écrit, où il y a écrit exactement tout ce qu'ils doivent faire, tous les process, la tenue qu'ils doivent avoir, le langage qu'ils doivent avoir, les phrases qu'ils doivent dire aux clients, etc., etc. Et on a aussi un cahier des charges très précis sur ce que doit être une agence Gold Union, donc avec une devanture, avec des stickers, voilà. Moi, c'est dès la première boutique, j'ai voulu que le nom et l'enseigne, tout de suite, ça parle, on va dire, au plus grand nombre, et que les gens puissent se dire, tiens, c'est une chaîne. Et même quand j'avais une ou deux boutiques, des fois les gens disaient, ah, vous êtes une chaîne, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on a mis en place. Et pour pouvoir se développer, on est obligé de passer par là. Le plus grand modèle là-dedans, pour moi, c'est, même si c'est dans un domaine différent, c'est McDonald's. En termes de process, c'est assez exceptionnel. J'ai un ami qui à l'époque travaillait chez McDo et qui me racontait un petit peu les process mis en place, et ça m'a vachement inspiré. Donc bâtir des bonnes fondations avant de se développer, c'est très 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 important dans un business physique, que les gens qui rentrent dans une boutique à Cannes ou à La Réunion ou à Lens aient la même expérience client, et ça c'est très important, sinon le château de cartes il s'effondre très rapidement.
Complètement, donc ça implique de la standardisation, ça implique des process, ça implique des protocoles, ça implique une culture d'entreprise, différents cahiers des charges, etc. Tous ces différents collaborateurs dans ces agences, dans ces boutiques, est-ce que ce sont des salariés, est-ce que ce sont des franchisés, est-ce que ce sont des associés, est-ce qu'ils sont incentivés directement sur la boutique dont ils ont la gestion? Quel est le modèle économique que vous avez mis en place pour justement n'avoir finalement des collaborateurs, avoir des collaborateurs finalement qui sont vraiment engagés, qui sont vraiment compétents et qui ont envie de permettre à la société de grandir à leur rythme?
Alors nous, en fait, pour repartir du début, moi, quand je me suis retrouvé dans ma boutique et que j'ai voulu en ouvrir une deuxième, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que moi, ce qui me motive, c'est de ne pas gagner la même chose tous les mois, comme tous les entrepreneurs. Comment je vais faire pour recruter quelqu'un qui va avoir la même envie que moi? Évidemment, ça n'est pas possible, mais au moins 90-80% la même envie que moi. Je me suis dit, il faut que je lui donne un fixe et un pourcentage sur ce qu'il va faire. Comme ça, il va être dans la même énergie, on va être dans le même bateau. C'est-à-dire que quand la boutique fait du chiffre, on est tous contents. Quand elle ne fait pas de chiffre, on gagne tous un peu moins, et c'est très bien. Donc en fait, nous, tous on est l'entreprise, ça j'en suis persuadé, je le sais par rapport à ce qu'on nous rapporte, qui paye le mieux dans le secteur. Et en fait, moi, j'ai toujours eu à l'esprit et toujours eu cette envie de bien payer les gens avec qui je travaille. J'ai pas peur de le dire, ils peuvent se manifester si c'est faux, mais pour moi, c'est très important d'élever tout le monde, on va dire, tous les gens qui travaillent avec moi. Et donc, ils ont un fixe plus un pourcentage sur le chiffre qu'ils font dans le mois. Et en plus, on a mis en place depuis l'année dernière un challenge de toutes les boutiques en France avec un classement. Donc avec différents critères, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec des voyages à gagner. Donc là, l'année dernière, le premier, il a gagné un voyage à l'île Maurice d'une semaine, dans un hôtel de luxe, le deuxième voyage à New York, etc. Donc ça, c'est pas mal de petites choses qu'on met en place pour motiver les équipes. Et également, on a fait un super événement l'année dernière pour les 10 ans à Paris, avec, on avait, comme DJ, on avait Kungs. Donc c'était assez fou, on avait Kungs juste pour nous, pour 60 personnes. Donc voilà un petit peu comment on arrive à engager nos équipes. Ça passe par le salaire et aussi un management, on va dire. Moi, je prône plutôt le management, on va dire, d'équipe, plutôt que les coups de bâton ou l'autoritarisme, on va dire, poussé à l'extrême. Ça marche jamais, surtout que les personnes sont seules en agence. Donc si c'est pour venir mettre des coups de bâton et se tourner le dos, et en fait ils nous détestent, ils ont pas envie d'aller dans le bon sens, c'est pas la peine, voilà. Donc voilà un petit peu notre politique pour se développer. Et mon premier, on va dire, entre guillemets, employé, c'est le réflexe qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. J'ai pris un de mes meilleurs amis et qui est aujourd'hui notre meilleur directeur et qui travaille avec moi depuis 10 ans. Voilà.
Magnifique. Merci pour ces éléments. C'est vrai que le recrutement et la façon dont on va incentiver les bons collaborateurs, c'est une vraie question. Donc, je récapitule. Un fixe plus un variable basé sur le chiffre d'affaires et la performance de la boutique pour laquelle ils ont la gestion. Et derrière, de la gamification que vous avez mis en place au sein du groupe et des événements pour créer de la cohésion et permettre à la culture d'entreprise d'être omniprésente.
C'est ça. Et pour répondre aussi à ton autre question, nous, on n'a aucune franchise, on est tout en succursale. Voilà.
Donc
et tous nos employés sont en CDI. Ce n'est pas des contrats, on va dire, de gérance. C'est, tout le monde est en CDI chez nous.
Ça permet de rendre la structure encore plus solide et la valoriser comme il le faut et plus facilement. Franchement, c'est super intéressant. Aujourd'hui, vous avez donc plus de 70 collaborateurs. Chacun de ces collaborateurs, comme tu l'as évoqué, ils sont responsables d'une boutique. Donc, ça nécessite que finalement, ils soient bien recrutés parce que la réussite des nouvelles boutiques que vous ouvrez à chaque fois dépend indirectement, voire directement, du collaborateur qui a été choisi pour celle-ci. Comment est-ce que tu abordes le processus de recrutement pour vous assurer de recruter des personnes de qualité et capables de maintenir les standards de l'entreprise ?
En fait, ça, je pense que c'est vraiment le sujet de tout le monde. Comme je te l'ai dit au début, le premier réflexe, comme on a peur de montrer son métier, ce qui est très bizarre, mais en plus dans l'or, j'avais besoin d'avoir quelqu'un de confiance, c'est pour ça que j'ai pris un ami très proche avec qui ça se passe très bien. Les process, ils évoluent tout le temps. Moi, au début, je marchais que à l'instinct. J'avais aucun process de recrutement. Je t'avoue que je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si j'ai un bon instinct, mais ça a super bien marché. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai recrutées au début, c'était vraiment, je faisais la formation moi-même. J'organisais les travaux dans les boutiques, je signais les boutiques, je faisais tout, je faisais la comptabilité, je faisais vraiment tout. Donc au début, on marchait beaucoup au feeling, on marche toujours à ça parce que c'est vrai qu'en un ou deux entretiens, voire trois entretiens, c'est difficile de cerner quelqu'un. Donc il faut s'attacher à des signaux, on va dire, faibles. Et maintenant, ce qu'on a rajouté, c'est une mise en situation pendant le deuxième entretien physique. Le deuxième entretien physique qui se passe toujours à notre siège à Paris aussi. C'est un gros sujet pour nous parce qu'on recrute des personnes qui sont pas du secteur en fait. C'est très compliqué. C'est pas comme quand tu recherches un RH ou on va dire quelqu'un spécialisé dans le marketing. Tu peux voir son background. Nous, on prend des gens qui sont pas du tout du métier. Donc on les forme de A à Z et donc c'est vrai que des fois il y a des loupés hein, comme dans tous les métiers mais surtout la confiance, est-ce qu'ils ont la flamme, est-ce qu'ils ont cette petite étincelle, on va dire que quelqu'un qui a un bon fond, qui a des bonnes valeurs, on pourra toujours en faire quelque chose de bien, mais quelqu'un qui est où on sent qu'on a du mal à le cerner, etc., et qui a un mauvais fond et des mauvaises intentions, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais rien faire. Donc, c'est ça le plus important pour nous, c'est quelqu'un qui a des bonnes valeurs. Voilà.
Indirectement, tu réponds à ma question suivante. Finalement, tu parlais de signaux faibles. C'est quoi les différents red flags, si tu devais en citer deux ou trois, qu'avec l'expérience, tu arrives facilement à identifier où tu sais que okay, cette personne, ça ne va pas forcément le faire, de par les enjeux qui incombent à ce poste, que tu pourrais nous partager ?
Les gros red flags, pour moi, j'ai 36 ans, mais je suis un peu à l'ancienne. Enfin, ce n'est pas à l'ancienne, mais quelqu'un qui est en retard, déjà, c'est impossible. La personne, elle arrive, tout de suite, on lui dit « Désolé, on ne va pas perdre de temps à faire un entretien, vous êtes en retard ». Si la personne, elle n'est pas capable d'être à l'heure pour son entretien d'embauche, elle ne pourra pas être à l'heure tous les jours pour ouvrir son magasin à 9h30. Si un client, il est devant la boutique à 9h32 et que la boutique n'est pas ouverte, moi, personnellement, c'est un truc qui me rend fou. S'il y a des horaires sur Google, je sais pas, mais s'il y a des horaires sur Google et des horaires sur une boutique, la personne, elle n'est pas là à l'heure, c'est dramatique, on paye un loyer, etc. Donc, non. Donc, gros red flag, le retard. La façon de s'exprimer, parce que c'est vraiment très important. Nous, on est tout le temps avec des... Enfin, on travaille avec des clients particuliers. Donc, il faut avoir une certaine élocution, entre guillemets. Bon, on demande pas aux gens de parler non plus comme dans les beaux quartiers, etc. C'est pas ça le but, mais quelqu'un qui sait s'exprimer et qui dit pas des mots vulgaires dans sa conversation, ça paraît basique. Et sinon, un autre red flag aussi, qui est un peu plus spécial, c'est quelqu'un qui va critiquer son ancienne direction. Très ouvertement et sans qu'on lui ait posé trop de questions, il va vraiment, entre guillemets, tailler son ancien patron. Et même s'il y a des choses qui sont mal passées, je trouve que c'est pas très correct de faire ça. Donc c'est que déjà, c'est quelqu'un qui est un peu médisant, qui critique un peu et qui a pas un super bon état d'esprit. Donc voilà, et puis quelqu'un qui sourit pas du tout. Voilà, quelqu'un qui sourit pas, c'est même pas la peine. C'est pas forcément parce qu'on est dans le commerce, mais on a envie de travailler avec des gens avec qui on est bien et c'est important d'avoir le sourire, quoi. Franchement, voilà, on essaie que du travail, hein. On n'est pas non plus en train d'opérer des enfants à cœur ouvert, donc voilà.
Ouais, complètement. C'est très intéressant tes réponses parce que finalement, 100% des réponses que tu évoques ici ont un rapport avec le rapport et le contact direct à la clientèle de par le fait que c'est un business physique, commerce de proximité en s'adressant à des particuliers. Donc, je te rejoins tout à fait. Si on sort un peu du cadre de l'humain, est-ce qu'il y a différentes choses, que ce soit des outils ou un process ou une méthode que tu as mis en place et qui a permis cette croissance qui, encore une fois, est relativement rapide en seulement 3-4 ans. Je te donne un exemple concret. Par exemple, ça pourrait être des campagnes de pub à l'échelle nationale qui n'étaient pas possibles de déployer avant. Mais qui...
là, tu veux me parler sur le côté RH, c'est ça ?
Soit le côté RH, mais plus le côté business en général, comme par exemple un CRM qui viendrait centraliser toute la data de façon à pouvoir scorer les choses et puis avoir beaucoup plus de visibilité sur vos KPI et qui aurait pu être justement une des clés vous permettant d'arriver à cette croissance et de maximiser la rentabilité, le rendement de cette croissance, de par le fait que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des résultats significatifs, qui ont des résultats intéressants et qui ont cette volonté finalement aussi d'aller chercher une croissance aussi exponentielle et dingue que la vôtre et qui est loin d'être terminée de par les ambitions 2024-2025, ne savent pas comment forcément s'y prendre. Et souvent, il y a un peu un dénominateur commun. Typiquement, j'avais en consulting il y a de ça quelques mois un paysagiste et il y a de ça quelques jours un chauffagiste et on se rend compte que ce sont des industries finalement différentes mais qui ont énormément de points communs et que la quasi-intégralité des choses qui ont été mises en place chez le paysagiste peuvent l'être chez le chauffagiste pour aller chercher aussi des résultats relativement intéressants. Dans ton cas, est-ce qu'il y a 2-3 actions comme ça que tu identifies, là en te posant la question, que tu pourrais partager et qui pourraient se déployer dans d'autres types de business?
Ouais, et en plus c'est bien que tu parles par exemple d'un paysagiste ou d'un chauffagiste parce que je pense que n'importe quel métier peut être scalé et n'importe qui, que ce soit un plombier ou n'importe qui, peut développer son activité très fortement. La première chose, c'est que pour parler de façon plus générale, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir parfois. Il faut vraiment sentir quelque chose en soi où on se dit « je vais arrêter de perdre de temps et là, je vais essayer de passer à x10, x100 ». Pour ça, je pense qu'il faut être, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, il faut être un petit peu parfois inconscient et ne pas avoir peur de se jeter dans le vide sans savoir si on a un parachute et puis essayer de le construire. C'est un petit peu général ce que je dis, mais entre guillemets, moi, j'ai l'habitude de me lancer sans savoir où je vais et là ce qu'on a fait ces dernières années, on a pris quand même énormément de risques pour se développer ce qu'on a mis en place qui a vraiment été entre guillemets game changer, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est de prendre nos propres agents immobiliers, puisque nous la croissance elle passe par le fait de sourcer des boutiques qui sont des bons emplacements. Et donc le fait de recruter 2 agents immobiliers en interne et pas passer par des agences immobilières, c'était un investissement, mais ça nous a permis vraiment de se développer. On a fait un peu de dette bancaire aussi, ça nous a beaucoup aidé à nous développer. Mais je pense que la première chose, c'est vraiment le feu qu'on a. Je sais pas, moi ça m'a pris comme ça du jour au lendemain, je pense que c'était à la sortie du Covid. Je me suis dit, en fait, on va pas assez vite. J'ai déjà tel âge, entre guillemets. J'ai un concurrent qui a plus de 100 boutiques. On y va. Et d'ici 2025, on fait 100 boutiques. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment En fait, quand on a démarré un peu une activité, on est un peu dans une prison dorée, c'est-à-dire qu'on gagne bien sa vie, on est confort, on a quelques boutiques, tout va bien. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et de tout remettre en question. Entre guillemets, moi, je préfère tout perdre aujourd'hui en ayant essayé d'aller très très haut plutôt que de conserver, entre guillemets, ce que j'ai. Voilà un petit peu, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà un petit peu ce qui a été les éléments déclencheurs pour cette croissance et aussi m'entourer de personnes qui sont très compétentes. Là, il y a 2 ans, il y a ma directrice, Laura Clémentine, qui m'a rejoint il y a 2 ans et demi. C'est mon bras droit, en fait. Et là, ça a été la révolution. Déléguer, quoi. Voilà, ouais. C'est juste passer de l'autre côté du mur. Une fois que tu commences à déléguer à des personnes qui sont très compétentes et alignées avec toi, voilà, elle, c'est une machine de guerre. Et avec elle, j'ai pu, depuis 2 ans et demi, avancer très fortement. Mais là, la première chose, je ne rentrerai pas dans des détails techniques, la première chose, c'est vraiment l'envie. Est-ce que vous avez envie de prendre des risques, encore plus de risques? Et on ne peut pas avancer très vite sans prendre de risques, ça n'existe pas. Voilà, il faut tout remettre sur la table. Et nous, on aurait pu s'écrouler hein, en montant pendant 3 ans autant de boutiques. On a payé des loyers pendant des mois et des mois avec des boutiques fermées parce qu'en fait, on signait tellement qu'on n'avait pas le temps de recruter. Enfin voilà, on a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On a remis tout l'argent qu'on gagnait, on l'a remis sur la table. Donc voilà un petit peu, c'est si un analyste financier ou un directeur financier avait vu notre plan il y a 3 ans, il nous aurait dit n'y allez pas, vous risquez d'aller dans le mur. Donc on a pris beaucoup de risques pour arriver là.
Extrêmement intéressant, donc je récapitule rapidement, c'est ouvrir le champ des possibles, se donner les moyens d'eux et oser prendre des risques, recruter en interne un des éléments à haute valeur ajoutée qui va vous permettre d'avoir une forte croissance, là en l'occurrence 2 agents immobiliers pour maîtriser cette chaîne de valeur. Et puis le 3e point, peut-être le plus important que beaucoup de chefs d'entreprise oublient, c'est de recruter un bras droit ou un directeur des opérations, voire même à un certain moment recruter un CEO pour en tant que président fondateur ne se concentrer que sur sa valeur ajoutée et là on va pouvoir apporter plus de valeur à son groupe ou à sa société. Ça c'est vraiment game changer. Une autre question, c'est que là donc vous avez pour objectif d'aller chercher 100 boutiques, 100 agences Gold Union d'ici 2025. Ça fait presque x2 finalement par rapport à ce qui est actuellement
c'est ça.
Actif.
C'est finalement on a déjà fait x10, donc x2 ça devrait pas être trop compliqué.
Et vu comme ça c'est clair, mais justement c'est quoi les stratégies concrètes que tu as planifiées pour y parvenir et quelle est ton approche pour assurer une croissance aussi soutenue, pérenne et surtout réussie derrière d'ici 1 an?
Déjà, j'ai un avantage, c'est que je suis parti de 0. Donc en fait, je sais exactement comment fonctionne ma boîte, je connais tout par cœur. J'ai tout fait, j'ai fait la distribution dans les boîtes à lettres moi-même, j'ai été moi-même expert pendant 6 ou 7 ans dans mon agence. Donc ça déjà, ça me permet de ne pas être parachuté et de bien 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 connaître ma boîte. Et ensuite, pour continuer à se développer... au niveau des 100 agences, là je dirais qu'on est bien parti. On a mis en place un nombre limité de boutiques par région. Quand je dis région, on a découpé la France en plusieurs régions. Et aussi on a à chaque fois un directeur qui s'occupe de entre 10 et 15 boutiques. Parce que celui qui veut monter, je sais pas moi, qui a des magasins de enfin, qui a des pizzerias et qui veut monter 100 pizzerias en lui-même manageant et surveillant ces 100 pizzerias, il ne va jamais y arriver. C'est impossible. Donc, il faut mettre des couches et des gens entre vous et vos business. Moi, maintenant, les boutiques, malheureusement, je n'ai plus trop le temps d'y passer. Et il y a même des boutiques qui ouvrent où j'ai jamais mis les pieds. Donc en fait, il faut vraiment déléguer. Je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui veulent se développer, la première chose, c'est prenez juste une deuxième personne, regardez ce que ça fait quand vous n'êtes pas là et regardez le miracle que c'est d'avoir votre boîte qui tourne quand vous n'êtes pas là. Et au pire, vous pourrez vous séparer de cette personne si ça se passe mal. Vous n'êtes pas pieds et poings liés. Les gens pensent toujours qu'en France, en CDI, on est pieds et poings liés, mais pas du tout. Il y a toujours des moyens de se séparer, à l'amiable ou pas. Et donc, je dirais que pour continuer, on est de plus en plus structuré. Là, on a embauché une directrice financière depuis le début de l'année. Et, et voilà, on continue à améliorer nos process et voilà, on va continuer sur la même ligne pour arriver aux 100 agences avec nos directeurs qui sont tous en place. On a une personne qui s'occupe des travaux qui est dédiée à ça. On a une RH qui a maintenant un bras droit aussi qui s'occupe de tout. Enfin voilà, on est vraiment on a vraiment une équipe mais qui est pas non plus surdimensionnée. Au siège, on doit être on va dire une dizaine pour piloter tout ça, ce qui est très peu finalement pour le chiffre d'affaires qu'on réalise.
Complètement. Je vais passer à la partie diversification et investissement justement. Tu as fondé Culinan, j'en parlais au début de cet épisode, pour regrouper finalement tes investissements. À la base, qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais créer une deuxième boîte alors qu'en plus tu es en hyper croissance sur la première? C'est pas forcément anodin, notamment en plus pour regrouper aussi tes investissements. C'est quoi l'élément déclencheur de ce deuxième projet, de cette deuxième boîte?
Bon, ça fait quand même 10 ans que je fais Gold Union, donc c'est quand même assez long. Et au bout d'un moment, on a envie, je pense que tous les entrepreneurs ont envie de ça, on a envie aussi de s'intéresser à d'autres choses. Moi, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de trop réfléchir pour me lancer sur quelque chose. Je me lance et puis je vois après. Donc en fait, c'était que déjà, quand on n'a qu'une seule source de revenus, c'est très dangereux. C'est-à-dire que si demain, cette activité-là s'arrête, j'ai plus de source de revenus. Donc c'était important pour moi de me diversifier, mais c'est surtout, c'est pas que pour ça, c'est surtout pour par curiosité, pour, on va dire, ne pas s'ennuyer dans un seul métier. Et puis, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de business à découvrir. Il y a des gens passionnants, des domaines passionnants. Donc moi, je voyais beaucoup de choses passer et c'était dommage de ne pas intégrer tout ça dans un groupe. Donc c'est pour ça que voilà, c'est surtout pour ne pas m'ennuyer, ne pas me lasser au bout de 10 ans de mon activité et pouvoir aussi participer à d'autres aventures.
Ok, je vois. Tu peux nous en dire plus justement sur Culinan? C'est quoi l'objectif de cette entreprise?
Alors, Culinan, en fait, c'est un groupe qui réunit toutes les sociétés qu'on gère. J'y dis souvent « on » hein, parce que je ne travaille pas tout seul. Donc en fait, Culinan, c'est un groupe donc, qui détient évidemment Gold Union, qui détient aussi une société immobilière où on fait pas mal d'investissements immobiliers et aussi pour Gold Union puisqu'on achète des locaux commerciaux. On achète aussi des hangars, on a aussi une société de transport où on a des licences de taxi, des licences de taxi parisiennes. D'ailleurs, ça, on avait fait une très belle affaire puisque ça, à l'époque, quand j'ai voulu en acheter, tout le monde m'a dit avec Uber, n'en achète pas, n'y va pas. Et puis finalement, entre guillemets, on a eu raison puisque ça a beaucoup augmenté. On a aussi une partie où on investit dans des startups. Donc on reçoit de temps en temps quelques dossiers où on travaille avec des partenaires qui nous présentent des dossiers. Voilà, et ensuite on a aussi une branche hôtelière qu'on vient de lancer, donc une société qui s'appelle Clark. Et donc on lance notre premier projet hôtelier cette année. Et donc voilà, en fait Culinan, c'est simplement une structure pour réunir un peu toutes les sociétés. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais si un jour les auditeurs montent au minimum 2 boîtes, forcément, ils devront les regrouper sous une seule structure. Ce n'est pas pour des raisons fiscales, mais pour des raisons d'organisation. C'est tout à fait logique. Voilà.
Complètement. Et justement, la deuxième question que je veux te poser par rapport à ça, c'est que cette structure, elle est assez complète, elle est assez complexe. Elle est aussi très riche dans les différentes variables à prendre en considération. Comment, dans ton quotidien, tu gères l'équilibre entre ton rôle de CEO de Gold Union et tes responsabilités d'investisseur au sein de Culinan? Est-ce que tu as des stratégies ou des méthodes spécifiques pour organiser ton temps que tu as dû mettre en place et faire en sorte de pouvoir n'être mobilisé que sur les éléments à haute valeur ajoutée que tu peux apporter au groupe?
Ouais, en fait, je reviens à l'organisation. Moi, pour parler un peu de mon quotidien, moi, j'utilise Notion, comme beaucoup d'entrepreneurs. La prise en main est un peu difficile. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'a été. Notion, c'est bien. Et Notion est mon agenda Google. Chaque fin de semaine, je mets tout ce qu'il y a dans mon Notion dans la semaine qui arrive. Parce que c'est bien de mettre des choses dans ses to-do list. Je vois beaucoup de gens qui mettent des choses dans leur to-do list, mais qui ne les mettent pas dans leur agenda. c'est, ça paraît bête, mais ils ne mettent pas un moment pour le faire. Donc voilà moi un peu la façon dont je m'organise. Mais on va dire que pour le moment, 80% de mon temps, ça reste Gold Union. Et 20% de mon temps, c'est on va dire l'hôtel, c'est le projet des robots bubble tea qu'on a à côté qui s'appelle Moon. C'est d'autres choses, mais je mets des gens en place, par exemple pour le projet des robots bubble tea, dont on parlera peut-être après. C'est une CEO qui s'en occupe et moi je fais un call avec elle par semaine. Sur Gold Union, j'ai un call avec chacun de mes directeurs une fois à la fin du mois, sinon on se parle quasiment pas dans le mois. Donc c'est juste de l'organisation et en fait quand on est bien organisé on se rend compte qu'on a beaucoup de temps. Je suis aussi papa d'une petite fille donc on a plus de temps qu'on croit et y a encore de la place même pour faire d'autres choses, mais je sais que mon activité principale ça reste Gold Union pour le moment.
Ok, très clair. Je te rejoins sur ce sujet du temps. Le temps on en a, on peut en trouver, mais je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent, malheureusement, n'y arrivent pas, tout simplement, on ne dispose pas encore de la clarté d'esprit, des compétences, des connaissances, ou de la confiance en soi pour pouvoir déléguer et structurer tel que tu l'as fait. Ce qui est hyper intéressant dans ton cas aussi, c'est que ça s'est fait rapidement. Qui plus est, tu es complètement autodidacte, tu n'as pas fait de grandes études ou autres et autres. C'est pour ça que je me reconnais aussi beaucoup dans ton parcours et dans les choses que tu as mis en place. Dans ton cas, comment est-ce que tu as fait face aux différents challenges liés à cette croissance et comment tu t'es formé, comment t'es monté en compétences pour pouvoir mettre en place ce type de stratégie et d'action qui fait qu'aujourd'hui, tu es le CEO que tu es et que peut-être demain, celles et ceux qui nous écoutent pourront à leur tour structurer leur business tel que tu l'as structuré.
Bah écoute, c'est pas parce qu'on est dans un podcast, mais j'ai envie de, quand même de parler des podcasts parce que, bon moi je vais pas mentir, je lis très 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 peu, malheureusement, j'ai essayé plusieurs fois de me faire violence, tu sais comme ceux qui veulent se mettre au sport, j'ai essayé mais je crois que comme j'ai pas pris trop l'habitude quand j'étais petit et que j'étais voilà pas bon à l'école malheureusement, alors je perds pas espoir, peut-être que j'arriverai à m'y mettre mais je lis pas beaucoup. Et j'ai pas fait d'études, donc ça fait déjà deux choses en moins pour apprendre. Mais moi, là, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, j'en serais jamais là aujourd'hui sans les podcasts. D'accord. Vraiment, je faisais beaucoup de trajets en voiture. Le premier que j'ai beaucoup écouté, j'ai écouté tous les épisodes, c'est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphany. Et en fait, à force d'écouter des entrepreneurs qui parlent des outils, qui parlent de leur façon de travailler, je pense que dans ma tête, ça a agrégé un nombre d'informations, mais colossal. Quand je fais la cuisine, je mets un podcast. Je suis en train de travailler, je mets un podcast. Je suis dans la voiture, je mets un podcast. Dans le train, dans l'avion, tout le temps. J'écoute. Et en fait, à force, mon cerveau, il enregistre tellement d'informations. Et le jour où j'ai un problème, je me dis, tiens, j'ai entendu parler de cet outil dans ce podcast. Tiens, j'ai entendu parler de ça. Et donc, en fait, les podcasts, pour moi, ça a été ma formation vraiment numéro un. À chaque fois, mes équipes, ils me disent, mais comment vous connaissez ça? Où est-ce que vous avez entendu ça? Je dis, ben, les podcasts. Que ce soit, parce que moi, j'ai pas d'amis entrepreneurs, j'ai pas vraiment de cercle d'entrepreneurs autour de moi. Et donc, Notion, Penny Lane, tous ces outils, la façon de manager, la façon de se développer. Et les ambitions aussi, d'écouter des podcasts avec des grands entrepreneurs tout le temps, mais vous vous sentez tout petit. Enfin, moi, au contraire, moi, ça ne me déprime pas, mais des fois, je me dis, j'écoute des entrepreneurs qui ont 25, 26 ans, qui ont fait des trucs incroyables. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai le feu et j'ai envie de tout casser. Donc, je pense que ça a été vraiment le truc qui m'a amené à voir autre chose. Et quand on n'a pas des amis entrepreneurs ou des gens qui sont très, très riches autour de nous, qui sont très successful, bah en fait, moi, j'ai trouvé ça dans les podcasts et c'est pour ça que je continue. Et donc, c'est vraiment… Et en plus, c'est gratuit. Donc franchement, allez-y, quoi. Il faut écouter.
C'est quoi le dernier truc que tu as entendu dans un podcast qui t'a fait prendre conscience de quelque chose, t'as implémenté dans ton business et ça a été game changer?
Franchement, là, comme ça, j'ai pas quelque chose en tête tout de suite. Mais c'est tout le temps. Récemment, j'écoute beaucoup aussi le podcast Sans Permission de Oussama et Yomi, qui est vraiment top et intéressant et détente. Mais non, c'est juste que quand je vois parfois les ambitions de certains, je me dis que je ne suis pas assez ambitieux et ça me pousse à aller de l'avant, quoi. Donc, je pense qu'on se met trop de barrières et il ne faut pas. Donc, c'est pour ça que là, cette année, on part aux États-Unis, etc. Sûrement, j'ai dû écouter un podcast où il parlait de développement à l'international et puis ça m'a donné envie, quoi. Donc, non, c'est super d'avoir de nos jours, en 2024, autant de contenu, quoi. C'est franchement super par rapport à avant où on était obligé de rester dans notre condition. Là, au moins, on peut s'ouvrir et écouter des choses super intéressantes et se développer. Donc c'est top. J'ai pas d'exemple concret comme ça.
Aucun souci. Justement, parlons-en du développement aux États-Unis. C'est pas anodin. Là, vous êtes en hyper croissance en France depuis des années. Cette année, ça va encore être une année de croissance. Et vous prenez la décision de vous déployer également, pas dans une autre ville, pas dans un autre pays, mais carrément sur un autre continent. Qu'est-ce qui déclenche cette décision? C'est quoi la vision qu'il y a derrière? C'est quoi les enjeux? Ça peut être extrêmement intéressant parce que finalement, un peu le rêve américain, beaucoup l'ont, très peu osent le déployer. Tu parlais justement d'oser, tu parlais d'ambition, tu parlais aussi indirectement de courage, d'oser prendre des risques. Ça peut être intéressant que tu nous partages la vision qu'il y a derrière ça et les éléments déclencheurs.
Ben, honnêtement, je n'ai pas toujours des réponses rationnelles à la façon dont on avance, mais moi, j'ai besoin de rêver, honnêtement. J'ai besoin, le matin, quand je me lève pour ma boîte, et honnêtement, j'adore ce que je fais, je suis passionné, j'adore venir bosser au bureau tous les matins, mais j'ai besoin de rêver. Et là, en fait, quand je vois que la flamme commence un petit peu à baisser, que ma motivation le matin est un peu moins bonne, bah, je me dis qu'il faut des nouveaux challenges. Donc là, en fait, le challenge des 100 agents, ça y est, il est sur les rails, si tu veux. On va y arriver en 2025, tout est en place. Donc ça y est, entre guillemets, là, on est parti pour y arriver. Donc en fait, on avait besoin d'un nouveau challenge dans la boîte. Et moi, j'ai besoin aussi d'emmener mes équipes et de les faire rêver aussi, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas été se déployer ni en Espagne, ni en Italie, ni en Allemagne. J'aurais pas eu l'envie ni le feu de le faire, entre guillemets. Mais par contre, les États-Unis, personnellement et pour les équipes, ça nous fait rêver et se dire de là où on est parti qu'on peut aller aux États-Unis. Enfin là, j'étais à Los Angeles il y a quelques semaines. J'étais justement avec mon ami avec qui j'avais démarré il y a 10 ans. On est partis tous les deux là-bas pour visiter des boutiques et ouvrir le compte bancaire. Enfin, je veux dire, on se réveille le matin, on met notre costume et en tout cas, moi, je suis pas blasé des États-Unis et ça me fait toujours rêver. On s'est levé, on a été visiter des boutiques, on a été à la banque ouvrir le compte. À Los Angeles, franchement, on a passé 4 jours exceptionnels. Et je me suis dit, bon, on s'est pas trompé, quoi. Voilà, on est content d'être là, on est heureux et on a envie de se développer. Là, on va signer avant cet été une ou deux boutiques déjà pour démarrer. Et puis, on démarre en Californie et après, on va se développer sur la côte est et la côte ouest. Donc, on est très, très, très content et toujours pour repousser les limites et surtout être passionné et intéressé par ce qu'on fait, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, on tourne un petit peu en rond. Là, ça fait 10 ans qu'on est en France. On avait vraiment besoin d'un nouveau challenge. Et en plus, je parle très mal anglais. Donc ça va me mettre au pied du mur pour apprendre mieux l'anglais mais on n'a rien préparé, on y va et on construira sur place.
Et c'est quoi l'ambition? Tu te vois avoir 100, 150, 200, peut-être 1000 boutiques Gold Union aux États-Unis?
Bah écoute, je vois que toi aussi t'es ambitieux. Effectivement, vu la taille du pays, ici on attaque des villes de quoi, 30, 40 000, 50 000 habitants. Là-bas, la première ville qu'on fait, il y a 400 000 habitants. Donc effectivement, on se projette sur, on va dire, 500 boutiques. Ouais. Ce serait top. Par contre, je ne pense pas qu'on fera la même stratégie, c'est-à-dire de sourcer une boutique par une boutique. On passera par de la croissance externe pour se développer rapidement. C'est ce qu'on veut faire cette année aux États-Unis, en tout cas, ou l'année prochaine. C'est déjà de prouver un peu le modèle avec quelques agences et puis ensuite passer par de la croissance externe. Donc, croissance externe, pour ceux qui ne comprennent pas trop, ça veut dire racheter une chaîne de magasins et mettre notre enseigne pour pouvoir se développer plus vite. Parce que une agence par une agence, je l'ai fait, ça y est, on va arriver au 100, mais c'est très, très, très long et très laborieux. Voilà.
Mmh. Ouais, complètement, complètement. Très bon sujet. Tu fais bien d'évoquer la croissance externe. Plutôt que d'aller sur le chemin de la croissance externe, si on revient sur la croissance que vous avez déjà et que vous connaîtrez encore, aujourd'hui, pour des boutiques physiques de ce type, c'est quoi les canaux d'acquisition que vous utilisez pour pouvoir vous faire connaître, attirer de nouveaux clients? J'imagine qu'il y a le bouche à oreille qui rentre en ligne de compte, peut-être le référencement organique. Je vois que directement sur votre site, notamment, on peut générer un devis, on voit assez rapidement quelle est la boutique la plus proche, etc. Est-ce qu'il y a les leviers publicitaires, peut-être des spots télé? Je ne sais pas, quels sont les différents canaux d'acquisition que vous avez déployés ou que vous utilisez au quotidien pour vous permettre d'accompagner cette croissance, sachant qu'en plus, le modèle dans lequel vous êtes, c'est assez intéressant parce que vous possédez l'intégralité des boutiques. Donc finalement, que vous génériez du chiffre d'affaires à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Paris, grâce à de la publicité, si vous en faites, ça revient au même et le retour sur investissement elle-même. Donc, c'est relativement intéressant de faire des publicités à l'échelle nationale aujourd'hui de par votre couverture. Mais c'est quoi l'élément game changer en termes d'acquisition que vous avez déployé et que tu pourrais nous partager?
Alors, nous, on utilise un petit peu tout. On fait de la publicité en boîte à lettres, même si, bien sûr, ça va bientôt disparaître. Hein, on va pas se le cacher. Mais on continue toujours à en faire, donc publicité boîte à lettres. Évidemment, nos boutiques qui ont pignon sur rue, c'est un peu notre Google dans la vie réelle. Donc, si tu veux un emplacement numéro 1, faut le payer. Donc, nous, on essaie au maximum d'avoir des bons emplacements. Et du coup, tous les gens qui passent devant, ça fait de la publicité, évidemment. Le bouche à oreille, oui, maintenant, c'est vrai que ça peut arriver qu'une personne vienne et ensuite elle nous recommande à quelqu'un de sa famille, mais c'est pas sur ça qu'on compte vraiment. On a évidemment les Google Ads, où là on met beaucoup plus de budget. On est en train de refaire notre site aussi, la nouvelle version va sortir là en février. Donc publicité papier dans les boîtes à lettres, Google Ads, publicité sur Facebook, publicité sur Instagram. Là, on va travailler avec l'agence Barracuda pour tout ce qui est réseaux sociaux qu'on va attaquer cette année. Parce que c'est vrai que nous, on a quand même une clientèle qui est relativement âgée. On n'a pas beaucoup de jeunes, donc on n'était pas trop sur les réseaux sociaux. Mais comme l'âge, on va dire, la moyenne d'âge augmente beaucoup sur les réseaux sociaux ces dernières années. Et puis, vu le nombre d'agences qu'on a maintenant, c'est cohérent de le faire maintenant aussi. On faisait de la publicité dans les journaux, mais là, cette année, on ne va plus trop le faire parce que le rapport, on va dire, le retour sur investissement n'est pas exceptionnel, en tout cas de moins en moins. Et sinon, on fait, on a sponsorisé une émission sur YouTube sur l'environnement qui s'appelait Second Degré. Là, à la fin de l'année, on va faire notre premier spot publicitaire à la télévision. Okay. Donc on va commencer à préparer ça là à partir du mois prochain et voilà un petit peu pour les canaux d'acquisition et après du mailing à nos clients, à notre base de données, etc. Voilà un petit peu, on utilise vraiment tous les canaux d'acquisition pour mettre toutes les chances de notre côté. On a le budget marketing, c'est la plus grosse dépense dans la boîte, voilà, au-delà des loyers, des salaires, etc. C'est dans le marketing qu'on met le plus d'argent, voilà.
Ouais. Ce qui est pas forcément étonnant de par le fait que c'est aussi nécessaire pour soutenir une telle croissance. En général, ça va de pair, hyper croissance et budget marketing. T'es obligé de suivre, quel que soit.
Faut pas avoir peur de dépenser.
Ouais, complètement. Voilà.
En fait, ou d'investir. Par exemple, si ouais, c'est ça, et d'investir. Mais s'il me restait 1000 euros et que je devais faire quelque chose et que je suis au bord de la ruine, je le mettrais dans le marketing. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand les affaires marchent un peu moins bien, ils coupent le marketing. J'ai jamais compris ça. Mais en tout cas, et quand ça marche, il faut encore plus appuyer et mettre encore plus de moyens. Au contraire, il faut alimenter la machine et pas avoir peur de dépenser dans le marketing. Voilà.
Complètement, complètement. J'ai envie de revenir sur un sujet, justement, c'est ce fameux côté autodidacte que tu as encore une fois, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peut-être nous écoutent, qui peuvent se sentir un petit peu intimidés par leur manque de formation, leur manque de compétences ou autres, qui hésitent à se lancer ou qui hésitent à scaler. Quels conseils concrets tu pourrais leur donner, peut-être presque d'un côté, on va dire, mindset, comment est-ce qu'ils peuvent surmonter les barrières mentales auxquelles ils font face et les doutes pour réussir dans leur projet? Parce que j'ai vraiment l'impression que toi, tu es en mode presque on débranche le cerveau, bulldozer, on avance, ouais. On va exploser tout et on donne vie à nos ambitions. Et c'est une faculté que beaucoup d'entrepreneurs avec énormément de succès ont. C'est une faculté qui peut apporter énormément de valeur à n'importe quel entrepreneur, entreprise et projet, mais elle n'est pas donnée à tout le monde. Quels seraient les mots que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent pour leur permettre peut-être d'aller exprimer leurs ambitions comme ils le désirent?
Déjà, un des premiers trucs, c'est que par exemple, c'était la semaine dernière, je dînais avec une amie qui travaille dans une super boîte où ils font de l'acquisition justement, mais à grande échelle. Donc, c'est un groupe qui pèse plusieurs milliards. Et en fait, ils font de l'acquisition de boîtes, mais de façon assez industrielle. Donc, des boîtes qui sont… ils travaillent dans le software, donc ils rachètent que des boîtes dans le software. Qui sont un peu mal en point et eux avec leurs équipes et leur expertise ils les redressent et ils les revalorisent mais ils revendent rien en fait, ils gardent tout et je lui disais mais pourquoi tu montes pas ta structure, tu as l'expertise, tu connais tout, voilà, va pas chercher une autre idée, monte ta structure là-dedans. Elle me disait oui mais je me sens pas les épaules, je suis pas comme toi, etc., etc. Mais en fait moi ce que j'ai envie de dire pour répondre à ta question, vous ne serez jamais prêt et vous ne vous sentirez jamais les épaules tant que vous ne l'avez pas fait en fait. N'importe qui, je veux dire n'importe quel entrepreneur, n'importe quel chef d'entreprise, il a passé des étapes et il s'est adapté au fur et à mesure de ces étapes. En fait, les gens sont comme vous et en fait, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, je ne me disais pas que je pourrais gérer… On est encore, pour moi, une petite boîte. Je ne me disais pas que je pouvais gérer un jour 50, 70 personnes, autant de boutiques, autant de chiffres d'affaires, etc. Mais en fait, si vous ne passez pas le pas, vous ne verrez jamais vos limites et vous ne serez jamais confronté à ce que vous valez. Voilà. Donc en fait, n'attendez pas d'être prêt. Croyez-moi, vous ne le serez jamais. Il n'y a pas un moment où vous allez vous réveiller un matin et dire « c'est bon, je suis prêt à assumer ça, je suis prêt à gérer une boîte, je suis prêt à avoir cette pression ». Ça n'existe pas en fait. Tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose, on ne peut pas être préparé et se dire « c'est bon, je suis prêt ». Et puis, tous les gens qui entreprennent et tous les entrepreneurs, vraiment, ce n'est pas pour vous faire plaisir, entre guillemets, ils sont comme vous. C'est juste qu'eux, ils se sont lancés, ils l'ont fait. Voilà, c'est tout. Mais sinon, il n'y a aucune autre différence. Voilà. Et aussi, ce que je vois souvent, c'est des jeunes entrepreneurs qui cherchent l'idée du siècle pour se lancer. On revient au ce que tu disais tout à l'heure, les paysagistes et ce genre de métiers qui sont assez communs, entre guillemets. Il ne faut pas essayer de trouver l'idée du siècle, faire le nouvel Apple, le nouveau Facebook. Prenez quelque chose qui fonctionne, n'importe quoi, pressing, quelqu'un qui vend des pneus. Vous travaillez dans une boîte, faites la même chose que votre patron et montez votre boîte. Vous avez l'expertise, vous connaissez déjà le domaine. N'essayez pas de trouver le truc le plus sexy ou le truc qui va valoir des milliards. Lancez-vous dans quelque chose et franchement, moi, à la place de… Enfin, si j'étais plus jeune, comme je l'ai fait, je me lancerais dans un domaine qui existe déjà et je le ferais en mieux. Mais je n'essaierais pas de trouver l'idée du siècle. En tout cas, pour ma part, je trouve ça trop compliqué. Il y a déjà assez de risques à monter une boîte. Si en plus, il faut trouver l'idée du siècle, c'est très, très compliqué. Donc, je vois trop de gens qui envoient des dossiers avec des idées révolutionnaires. Bah, bon courage. Moi, en tout cas, j'ai du courage dans plein de choses, mais pas dans le lancement d'idées révolutionnaires. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà.
Très intéressant, ouais. Effectivement, tu fais bien de le souligner. On dit souvent, soit on gagne, soit on apprend. Sur ces 10 dernières années, j'imagine que tu as beaucoup appris. C'est quoi l'erreur ou la décision stratégique que peut-être tu aurais pu prendre différemment, qui t'a peut-être coûté relativement cher à voir, mais en tout cas qui t'a le plus appris et qui, avec du recul, aujourd'hui, si tu revenais 10 ans plus tôt ou 5 ans plus tôt, bref, quand tu as pris cette décision, tu aurais absolument envie de te la partager pour pouvoir soit éviter de faire face à ces problématiques, soit aller beaucoup plus vite.
Bah honnêtement, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça fait quand même 10 ans et je pense que, je ne sais pas ce que ça aurait été, mais je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. J'ai mis beaucoup de temps à déléguer. Encore une fois, je me sentais pas les épaules, je me sentais pas assez en confiance. Je me disais que je méritais pas forcément ça. Je me disais qu'il fallait me faire très mal pour être un bon chef d'entreprise, qu'il fallait être partout. Comme parfois, je vois des parents qui ont des enfants et ils se disent qu'il faut pas dormir et se faire mal pour être un bon parent. Ben, en fait, non, tout le monde mérite du confort, tout le monde mérite de l'organisation. Et j'ai mis trop de temps à déléguer. Je suis resté 7 ans en agence et j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à vraiment déléguer. C'est un truc qu'on entend beaucoup, mais en fait, c'est vrai que c'est très, très dur de déléguer, quoi. En fait, ce qui est dur, c'est quand c'est ta source de revenus, c'est-à-dire c'est l'argent avec lequel tu vas payer ton loyer, partir en vacances. C'est ça, en fait, qui est dur de déléguer, parce qu'on parle toujours de déléguer, déléguer, déléguer. Mais quand tu délègues à la première personne à qui tu vas déléguer, bah, tu lui mets un peu ta vie entre les mains, quoi. Mmh. Parce que encore, quelqu'un qui est déjà né dans une famille riche, qui a son loyer payé, qui a des appartements, qui a tout, pour lui, c'est facile de déléguer, entre guillemets. Il a pas peur. Mais quand c'est ta seule source de revenus, c'est ça qui est dur. Et je comprends que ce soit très dur de déléguer à quelqu'un. J'ai un ami, par exemple, là, qui a ouvert un salon de coiffure. Et il se lance et en plus comme il me voit évoluer, bah, ça lui donne envie. Il a 10 ans de moins et je comprends que pour lui, c'est son salaire tous les mois, c'est très dur pour lui de déléguer et d'avancer. Donc je pense que c'est ça l'erreur que j'ai fait. Ça m'aurait permis d'aller beaucoup beaucoup plus vite quand même, mais bon. Voilà, on ne sait pas ce que ça aurait été, mais je pense que c'est l'erreur. Et aussi, je reviens à ça, c'est la structuration, l'organisation, que j'ai mis beaucoup de temps à la mettre en place. Voilà, beaucoup trop.
Par curiosité, et c'est vrai que souvent la délégation, c'est un des éléments qui fait que beaucoup ne peuvent pas scaler à la hauteur de leur potentiel. Qu'est-ce qui t'a empêché de déléguer à ce moment-là? Est-ce que c'est... un manque de perception de la valeur que ça a la délégation, un manque de compétences liées à la délégation, une volonté de bien faire et donc un côté un peu perfectionniste en mode on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est quoi l'élément le plus fort qui t'a retenu à la délégation à ce moment-là?
En fait, moi, j'étais aux achats. Donc, c'est-à-dire que pour expliquer aux gens, c'est nous, on a des magasins, les gens viennent avec des bijoux, des pièces, des lingots, etc. Et viennent nous les vendre. Voilà. Y a un travail de négociation, évidemment, puisque les clients sont jamais vendeurs. Il faut que le prix leur convienne, il faut que ce soit le bon moment. Et puis, voilà, une vente, c'est jamais fait dans n'importe quel domaine. Je pensais qu'en prenant quelqu'un, la personne allait moins bien faire que moi, que j'allais perdre du chiffre d'affaires, donc que j'allais perdre du salaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur le moment immédiat. Et de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura jamais quelqu'un, et c'est normal, il n'y aura jamais une personne qui va faire aussi bien que vous, quand je dis aussi bien, qui sera autant investi. Et c'est normal, on ne peut pas demander à un employé d'être autant investi qu'un entrepreneur. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ah ouais, mais lui, quand c'est 18h, il s'en va. À minuit, il ne consulte pas ses mails. » Mais non, mais c'est normal. Toi, tu es chef de ta boîte. T'as une autre vue. Donc en fait, oui, je pensais que le travail allait être moins bien fait. Donc forcément qu'il y a un petit peu de perte de chiffres, un tout petit peu. Mais il vaut mieux avoir un petit peu de perte de chiffres sur une boutique pour pouvoir en monter 5 autres que de garder ses 100% dans sa boutique tout seul et de ne pas avancer. Donc c'est un peu ça le frein mental qu'on a, et c'est très 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 dur de... Une fois qu'on a fait le premier, hop, après c'est bon, on a compris, on se dit waouh, c'est magique en fait. Je suis pas dans le magasin, il y a du chiffre d'affaires qui rentre, mais quelle bénédiction, c'est incroyable. Donc en fait, il faut se dire que si on prend quelqu'un, si ça se passe mal, on peut arrêter, on peut se séparer de la personne surtout. Les gens, ils ont trop trop peur d'embaucher quelqu'un en CDI. Mais il faut essayer. Juste dites-vous, j'essaye pendant 6 mois. Si ça ne fonctionne pas, vous revenez tout seul dans votre affaire. Et si ça fonctionne, bah là, vous savez que vous avez un boulevard, mais essayez au moins juste de déléguer une fois. Mais ouais, moi, j'ai mis 6-7 ans, ce qui fait beaucoup quand même.
Ouais, effectivement. Merci Laurent. On arrive au terme de cet échange, de ce podcast. C'était hyper intéressant. J'invite également toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, eh bien, faites-le nous savoir. En mettant encore une fois 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée et un avis sur Apple Podcast. J'ai une dernière question que je pose à chaque invité du Déclic. Du coup, tu la connais. Est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, un élément, un déclic qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cette interview, que tu n'as peut-être jamais partagé dans aucune interview. Ça peut être une simple phrase, une citation, une situation, une anecdote. Peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Pour parler de choses plus personnelles, je pense que le très très gros déclic de ma vie, ça a été peut-être comme pour beaucoup les confinements que j'ai extrêmement mal vécu. Plus d'activité, les rues vides, mes boutiques fermées. Ça pour moi, ça a été un choc. Je pense que ça a été là un moment d'introspection un peu pour tout le monde. Et je suis ressorti de cette période complètement changé. Dans mes habitudes de vie, dans mes habitudes alimentaires, j'ai complètement été transformé. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là qui a été la période la plus dure de ma vie. J'ai vraiment, sans rentrer dans les détails, on va dire psychologiquement, ça a été une période très très difficile pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à remonter. J'ai eu heureusement le soutien de mes amis et de ma famille. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est tous parfois vulnérables et qu'on peut avoir aussi des moments où quand on flanche. Et après, j'ai réussi, on va dire, à remonter la pente. Et ce qui était pour moi la pire période de ma vie, en fait, avec du recul, ça a été entre guillemets salvateur. Donc, j'en suis ressorti plus fort. Et ça m'a vraiment fait avancer et donné beaucoup plus d'ambition. Et je suis ressorti de tout ça avec l'ambition justement de nous développer encore plus. Et puis voilà, et surtout, être heureux et être bien et profiter. Voilà. Donc c'était une période difficile.
Merci Laurent.
Merci Alec et merci pour l'invitation.